Code d'économie.
Inondation à Kinshasa, des pertes économiques majeures. Les victimes appellent à l'aide après la destruction de leur commerce et culture. Reportage à suivre dans ce journal. Détournement de fonds, justice à deux vitesses et gestion opaque des ressources publiques. Le réseau panafricain de lutte contre la corruption documente les dérives de l'État congolais au troisième trimestre 2024 et appelle à des réformes judiciaires urgentes. Bienvenue à tous à la une de ce magazine. Les conséquences économiques des inondations survenues ce week-end à Kinshasa. La vie devient difficile pour plusieurs familles sinistrées, notamment à Lemba Imbu, des bonhommes, Salongo Limete, Ndanou, Massina et Njili. Si pour beaucoup les dégâts se limitent à la détérioration des toitures et du mobilier, d'autres affirment avoir tout perdu. Les eaux des pluies ont non seulement emporté leurs biens, mais elles ont aussi détruit leurs habitations et leurs commerces. Les cultures maraîchères, elles aussi, ont été complètement englouties. Écoutez quelques témoignages recueillis au micro de Plotin Yambenga.
Il n'y a plus de passage, plus de nourriture, nos champs sont inondés.
Que les autorités nous construisent un pont solide. C'est cette route qui nous permet d'évacuer nos produits de champs et de prendre soin de nos enfants. Comme le pont est détruit, nous devons payer à chaque passage. Comment nous en sortir alors que nous ne vendons plus?
Là, je viens de subir une perte énorme par rapport à l'investissement d'une salle de loisirs qui était déjà fin prêt. Dès ce lundi, déjà, la salle devait être opérationnelle. Là, j'ai dépensé plus ou moins 10 000 dollars. Ça m'a pris beaucoup de temps pour économiser, mais voilà que cette catastrophe vient m'arracher presque tout. Je ne sais pas là où je peux me plaindre, mais...
On a perdu beaucoup de choses. J'avais du ciment ici, des portes, tout ça, et chez mon voisin. Il y avait aussi un dépôt de ciment, une terrasse, des congélateurs, des casiers, c'est parti. Sans compter les chaises, nous sommes incapables d'aller chercher encore une autre opportunité.
Le gouvernement congolais met sur pied un fonds de régulation économique, une stratégie qui renforce les mécanismes de stabilisation des prix de biens sur le marché, mais aussi de garantir l'approvisionnement du pays en produits de base. Le projet de décret portant création et fonctionnement de ce fonds a été présenté et adopté au Conseil des ministres de vendredi dernier. Suivez un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres fait par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, extrait proposé par Emmanuel Elamiji et Blaise Ndongala.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis au Conseil pour examen et délibération le projet des décrets modifiant et complétant les décrets numéro 8/10 du 7 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds des régulations économiques. Il s'agit d'une réponse à la nécessité de renforcer les mécanismes de stabilisation de prix et de garantir l'approvisionnement régulier du pays en produits de base. En effet, le Fonds des régulations économiques a pour mission d'assister les gouvernements dans sa politique d'approvisionnement régulier du pays en produits de base et de stabilisation de prix en visant spécifiquement la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations de dits produits et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Après débat et délibération, ce texte a été adopté.
L'ASBL Congo Action pour la diplomatie agissante, CADA, s'est réjoui que Kinshasa et Washington soient convenus de la signature d'un accord sur les minerais pour combattre l'insécurité dans l'est de la RDC. Le coordonnateur de cette organisation citoyenne a dévoilé son point de vue dans une déclaration parvenue ce lundi à Radio Okapi. Eric Kamba regrette que certains Congolais s'emploient à entraver cet accord. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Pour Congo Action pour la diplomatie agissante, la signature d'un accord avec les États-Unis d'Amérique qui sont intéressés par les minerais du Congo paraît plus possible. Son coordonnateur est d'avis que ce serait une manière de diminuer considérablement l'ardeur ou la nuisance des nombreux exploitants illégaux des minerais dans la partie orientale du pays. Eric Kamba.
Le contrat en question vaut la peine dans la mesure où le Congo éprouve encore beaucoup de peine pour se sécuriser et maîtriser le flux de minerais qui y sont extraits par des acteurs divers et qui s'évanouissent par fraude et contrebande avec l'aide des pays voisins, singulièrement le Rwanda et l'Ouganda, en Asie, Europe et en Amérique du Nord.
À cet effet, il recommande au président de la République de mettre en place une équipe pluridisciplinaire des négociateurs rompus composée de ministres sectoriels à savoir affaires étrangères, mines, commerce extérieur, portefeuille et finances, ainsi que les techniciens issus de la Jekamine et de la Sakima. Dans ce projet, Eric Kamba a en outre souhaité que les entreprises minières opérant dans l'est du pays soient associées parce qu'elles connaissent les problèmes de plusieurs ordres qui se posent par rapport à l'exploitation minière dans cette partie du pays.
Pendant ce temps, le réseau panafricain de lutte contre la corruption UNIS, membre de la coalition Congo n'est pas à vendre, a documenté les dérives dans la gestion des affaires publiques au cours du troisième trimestre de l'année 2024. Parvenu ce lundi à Radio Okapi, ce rapport met en lumière une série d'affaires de corruption ayant un impact direct sur la vie quotidienne de Congolais. Retrouvons encore une fois Blaise Ndongala qui a lu pour nous ce document.
Dans ces documents, les consortiums Congo n'est pas à vendre examinent des cas emblématiques allant des détournements de fonds publics à des scandales impliquant des hauts fonctionnaires, des magistrats ainsi que des artères clés de l'État congolais. Parmi les faits saillants, cette publication inclut les détournements présumés de 5,5 millions de dollars américains destinés à la construction des centres de formation professionnelle dans les Kasaï et le partage d'un butin de 35 000 dollars américains entre trois magistrats dans les Olomami. Dans ces rapports, la coalition Congo n'est pas à vendre déplore également l'évaporation de 3 millions de dollars américains destinés à l'indemnisation des populations expropriées du site de l'aéroport de Bipemba en Mbujimayi. Cette organisation citoyenne fustige également la répartition opaque des 5 millions de dollars américains des jetons de présence dans le cadre des renégociations du contrat chinois. Cette coalition se plaint du traitement à géométrie variable de certains dossiers judiciaires, notamment l'affaire des sous-facturations des forages et des lampadaires. Pour sa part, les représentants du réseau panafricain de lutte contre la corruption, Jimmy Kandé, espère que cette initiative incitera à une prise de conscience collective et à une action déterminée contre la corruption dans le pays.
La direction générale de la CADECO, la Caisse générale d'épargne du Congo, dénonce la tentative des reprises des activités de son bureau du Nord Kivu par la rébellion du 1-23. Ce lundi à Goma, la rébellion a publié l'acte portant création de l'autorité des régulations du secteur économique, financier et des assurances. Cet organe fait office de banque centrale et le programme de la relance financière débute avec le redémarrage de la CADECO. Jean Gandou nous donne plus de détails.
Pour la direction générale de la CADECO, l'initiative de la rébellion est illégale et dangereuse pour la sécurité financière des clients. Elle constitue une manipulation économique au service d'une occupation armée. Les responsables de cette société anonyme unipersonnelle indiquent dans un communiqué de presse rendu public le 5 avril dernier que les autorités nationales et la communauté internationale devraient prendre des mesures concrètes pour rétablir la paix et l'ordre dans la région afin de maintenir la stabilité du système financier national et sécuriser les intérêts de la clientèle. Au sujet du lancement des activités de la CADECO au Nord Kivu par la rébellion du M23, le communiqué de la direction générale de cette société indique, nous citons, « En tant qu'institution responsable, nous refusons de céder aux intimidations des groupes armés ». Fin de citation. À travers ce même communiqué, dont l'authenticité est certifiée par la hiérarchie de la CADECO, les agents de la Caisse générale d'épargne du Congo au Nord Kivu sont prévenus contre toute compromission ou malversation.
Relance des activités de la société minière de Bakou. Kwanga Miba, le gouvernement congolais s'inspire du succès du modèle économique botswanais dans l'exploitation et la commercialisation du diamant. C'est ce qui justifie la récente visite au Botswana d'une délégation congolaise constituée principalement de la coordination de l'unité de gestion de projets d'appui financier de l'État pour la relance des activités de la Miba, UGP Miba. Des détails avec Emmanuel Elamiche.
La délégation congolaise sur la relance des activités de la Miba était au Botswana au mois de mars dernier. Madame Joëlle Kabena, coordinatrice de l'UGP, s'est entretenue avec la Chambre de commerce botswanaise, le ministère des Mines et de l'Énergie, ainsi que plusieurs entreprises dont Debswana Diamond Company. Le Botswana est actuellement premier producteur africain de diamants et numéro 2 mondial. Il est en partenariat avec De Beers depuis 1971 avec une clé de répartition des revenus et de l'actionnariat évolutive au sein de la Société nationale de production de diamants et celle en charge de la commercialisation. Selon Joël Kabena de l'UGP Miba, la réussite de la relance de la Miba va permettre de repositionner cette entreprise du portefeuille de l'État sur la liste des grands producteurs mondiaux de diamants. Aussi de remettre cette société, autrefois poumon économique du pays, à sa place de levier de la croissance économique, de création d'emplois, des contributeurs au budget de l'État congolais. L'UGP Miba dit travailler avec la société et dans un avenir proche avec les communautés locales en général et plus particulièrement les femmes et les jeunes pour matérialiser la relance des activités minières de la Miba.
Ainsi prend fin Écho d'économie d'aujourd'hui. Billy Landry Betou était à la prise de son de Doné Nyangassa à la mise au monde. Je suis Justine Moussaou. Merci de nous avoir suivis.